Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h aujourd'hui. C'est donc avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce soir, la clim ne servira pas à grand chose au Mondial du Qatar. Il va faire chaud pour l'entrée de nos Bleus dans la compétition. Premier match, on le disait, à 20h face à l'Australie. Des Bleus qui ont dû s'adapter et apprivoiser l'absence de certains joueurs. Un agent du fisc n'est pas censé risquer sa vie lors d'un contrôle et pourtant, un inspecteur a été tué hier à coups de couteau dans le Pas-de-Calais. Sa collègue ligotée, le contribuable était un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Une histoire incroyable que nous allons vous raconter dans quelques instants. Tout près de Lyon, à Vaux-en-Velin, une école maternelle est fermée pendant une semaine à cause, écoutez bien, d'une invasion de rats. Ce sera notre rendez-vous à 12h08.
Alors que s'ouvre le congrès des maires à Paris, ces élus sont de plus en plus victimes d'incivilités, d'injures, voire de menaces.
À tel point que certains se font aider au quotidien, voire se forment pour y faire face. Nous serons avec le maire de Bron après ce journal. À 12h20, RTL, midi votre vie, plongé dans votre quotidien. De moins en moins de collégiens apprennent l'allemand. Comment faire pour rendre cette langue de nouveau attractive? Juste avant 13h, laissez-vous tenter midi. Vous connaîtrez les 5 finalistes du prix de l'album RTL de l'année. Et nous vous présenterons l'un des plus grands fans de Michael Jackson à l'occasion des 40 ans de Thriller. Le français a rencontré de très nombreuses fois The King of Pop. Et la question du jour sur RTL.fr. Coupe du Monde, évidemment. La France va-t-elle battre l'Australie?
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute l'interdiction faite à Jean-Luc Lahaye de se produire en concert. La Cour d'appel de Paris l'a décidé aujourd'hui. Faut-il de nouveau permettre à Jean-Luc Lahaye d'être sur scène? C'est une question qui peut intéresser nos auditeurs.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Alors en un mot, Peggy, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Je vous en donne un peu plus qu'un. Des averses, des nuages et du vent.
Bah, merci beaucoup. Vous revenez quand même. Météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gabriel Attal, est en ce moment même au centre des impôts d'Arras. C'est là que travaillait l'agent du fisc, tué hier soir dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, l'homme de 43 ans effectuait un contrôle chez un brocanteur dans un petit village du Pas-de-Calais. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Sa collègue, inspectrice des impôts, a été retrouvée ligotée sur une chaise en état de choc. Le contribuable, auteur des faits, lui, s'est suicidé. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
La commune de Bellecour est en état de sidération. Personne ne comprend le geste de cet habitant.
Oui, ce brocanteur de 46 ans s'était installé il y a quelques années dans cette ancienne ferme. Père de famille, divorcé, sans histoire, toujours prêt à rendre service pour le village. Un homme plutôt discret sur ses éventuelles difficultés, même si selon certains habitants, il avait déjà eu affaire aux agents du fisc.
Il n'avait pas une once de violence, on n'aurait pas cru ça. Il était très agréable. Bon, après, il était discret, hein. Donc, comme on dit, quand la porte est fermée, on ne sait jamais ce qui se passe, mais non. On a cru entendre, mais après, vous savez, dans un village, qu'il aurait des difficultés financières. Ouais. C'était pas la première fois. Il aurait eu déjà un contrôle, en fait. D'après ce qu'on dit, ça serait le deuxième contrôle. C'est de la folie.
Le maire de Bullecourt, Éric Bianchin, le connaissait bien.
C'est une personne qui était intégrée dans le village, qui œuvrait aussi pour le village. Hein. Ouais, il était serviable, quoi. Débarrasser les maisons, il vivait de ça, quoi. Il venait de temps en temps à la mairie pour protester, mais jamais rien de spécial, quoi. Un peu virulent dans ses paroles, quoi, mais jamais de gestes déplacés. On n'a jamais eu de fait comme ça, quoi.
Et Franck, en sait-on plus sur le déroulé des faits?
Eh bien, dans cette grande bâtisse en briques, les deux inspecteurs des impôts se sont présentés dans l'après-midi d'hier, avant que les choses ne dégénèrent. Alertés par un voisin, les gendarmes ont d'abord retrouvé une femme, vérificatrice de 38 ans, qui était ligotée sur une chaise sous le choc. Elle a pu être prise en charge par les pompiers. Son collègue d'Arras, chef de service, a été retrouvé mort, tué de plusieurs coups de couteau. Le brocanteur s'était suicidé dans une dépendance à côté. Toute la matinée, les gendarmes ont perquisitionné ici, sur les lieux du drame, pour tenter de comprendre ce geste désespéré.
Frank Hanson, le correspondant de RTL dans le Nord. Afin de vérifier le bien fondé des informations parues dans la presse concernant l'ex-épouse d'Éric Ciotti, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire, notamment pour détournement de fonds publics. L'ex-femme du député des Alpes-Maritimes aurait, selon Le Canard enchaîné, cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à Nice, mais aussi au département. Nous y revenons plus précisément à midi et demi.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Et c'est donc le grand jour ou le grand soir pour l'équipe de France de football. Premier match du Mondial face à l'Australie.
Oui, le grand jour ou l'heure de vérité. Hein. C'est selon comment les Bleus vont-ils aborder la compétition sans Benzema, ni Kanté, ni Pogba. Ces forfaits font visiblement très plaisir aux autres sélections, Nicolas Georgerot. Ça veut dire que l'on fait moins peur ?
Bah oui, c'est vrai, c'est assez mitigé, c'est nuancé quand on échange avec les uns et les autres. Les Bleus n'inspirent plus forcément de crainte, image d'un champion du monde qui s'essouffle, affaibli aussi par les blessures récentes, précise Pablo Polo, journaliste à Marca, quotidien espagnol.
C'est évident que le fait de ne pas avoir un Pogba et Kanté, comment va réagir l'équipe de France au milieu de terrain, mais évidemment que c'est la doute.
Le doute chez les Espagnols, le doute aussi par exemple chez les Argentins, indique Guido Gleit, reporter au pays de Lionel Messi. Ils ne mettent pas les Bleus parmi les nations favorites du tournoi.
Je pense que le premier favori, c'est l'Argentine. Le deuxième favori, c'est le Brésil. Et la France, ce n'est pas la même France qu'on a vue dans les dernières Coupes du Monde.
Malgré l'absence de Benzema, c'est le potentiel offensif qui fait parler. Évidemment, Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé et les autres. Adam Peacock travaille pour un journal australien.
We're a bit worried. On est un peu inquiets quand même. Ces attaquants marquent beaucoup de buts depuis longtemps dans les grands championnats.
Pour lui, la rencontre sera même moins serrée qu'il y a 4 ans face à l'Australie quand les Bleus l'avaient emporté péniblement 2-1. Il les voit s'imposer plus largement.
Nicolas Georgerot, que l'on retrouvera au commentaire ce soir pour France-Australie à 20h aux côtés de Philippe Sanfourge dès 19h15. Soirée spéciale sur RTL, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet. J'en profite pour vous dire que l'Argentine mène 1-0 à la mi-temps face à l'Arabie Saoudite. Les prochains matchs cet après-midi avant la France, hein, Danemark, Tunisie et Mexique-Pologne.
Chaque année au Resto du Cœur, le nombre de bénéficiaires augmente. Coup d'envoi de la 38e campagne.
Oui, dans le contexte actuel, il n'est pas très surprenant de voir la demande exploser. C'est notamment le cas au centre d'Asnières-sur-Seine où vous vous trouvez pour RTL, Léonard Cassette. Là, on reçoit des bénéficiaires toute l'année, bénéficiaires donc le chiffre a augmenté de 12%.
Oui, ici c'est environ 400 familles qui sont déjà inscrites cette année, des inscriptions qui continuent d'ailleurs avec l'inflation en fait. De moins en moins de monde est refusé parce que le barème pour accueillir les bénéficiaires a été revu. On ne prend plus seulement en compte le loyer mais aussi d'autres charges comme l'électricité pour le chauffage par exemple. Muriel est la responsable du centre depuis 4 ans.
Ça fait quand même beaucoup beaucoup de repas. On a de plus en plus de familles monoparentales. On a aussi les travailleurs pauvres qui arrivent beaucoup parce que là avec l'augmentation des charges de l'électricité etc. forcément tout flambe. Donc effectivement, les parents se privent de nourriture pour que les enfants puissent manger, etc.
Au milieu des denrées alimentaires, sur les grandes étagères, Christian, bénévole, décrit une particularité du centre, le resto bébé.
Le concept, c'est accueillir les mamans avec leurs bébés jusqu'à 18 mois. C'est non seulement de la distribution de tout ce que peut avoir un bébé, du lait, des couches et puis surtout des conseils.
Des ressources essentielles donc pour les bénéficiaires et qui coûtent de plus en plus cher aussi pour les restos. Au niveau national, ils sont contraints d'acheter 30% des produits distribués.
Reportage de Léonard Cassette pour RTL. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche, encore beaucoup de vent et des averses.
Exactement, et c'est vrai qu'on a encore des averses bien marquées cet après-midi sur les bords de Manche, dans le sud-ouest. Elles seront plus éparses sur le nord-est. Et on a de la neige également en moyenne altitude. Il a bien neigé en 24 heures sur les Alpes et les Pyrénées. De la neige partout en montagne, ailleurs, donc sur le massif central, sur la montagne Corse également. La Corse où il pleut encore. Les averses sont encore assez fréquentes. D'ailleurs, la Corse du Sud est encore en vigilance orange, pluie, inondation et vent. La Haute-Corse est sortie de la vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques également. Mais on reste prudent parce que ça souffle encore bien. On peut avoir des rafales jusqu'à 130 km/h. Beaucoup de vent sur la Méditerranée, beaucoup de vent sur les bords de Manche, sur la côte atlantique. Et en fait, un temps plus calme quand même entre la Bretagne, le centre et jusqu'à l'Île-de-France. Tout ça sous des températures qui sont de saison. En en fait, on va de 8 degrés. Alors, c'est un peu frais, c'est vrai, sur le nord-est, mais on est quand même sur des valeurs de saison de 8 à 11 sur la moitié nord et de 12 à 18 degrés dans le sud, 18 à Nice.
Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et c'est le moment de voyager à travers la France, comme tous les jours, vers 12h10. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, donc, l'info plus près de vous.
Avec nos correspondants, effectivement, qui quadrillent la France. Aujourd'hui, nous partons à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Une école maternelle de 170 élèves, l'école Federico Garcia Lorca, est fermée toute la semaine. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Fermeture pour un problème sanitaire de taille, c'est le moins que l'on puisse dire. Les rats ont envahi l'école.
Exactement, difficile d'en estimer le nombre, mais le problème s'amplifie. On en a retrouvé dans des poubelles, dans les toilettes. Des petites crottes ici ou là attestent de leur présence. Des habits ont même été grignotés, ce qui génère une vive inquiétude des personnels et bien sûr des enfants, comme l'explique cette maman.
Il y a des enfants, c'est sûr, ils ont vu les queues dans les toilettes. Il y a une maîtresse qui m'a dit qu'on allait manger son bonbon, quoi, ses chocolats. Une maîtresse, elle est rentrée dans les sanitaires, il y a un rein qui saute sur elle. Il y a beaucoup partout, même il y a des ACM qui m'ont dit... Il faut fermer la porte parce qu'ils sautent partout, dans toutes les salles, dans toutes les classes. Ils se déplacent partout, même dans les cuisines, même à la cantine. En plus, ils ont trouvé des rats morts dans la poubelle.
Ça fait un peu peur aux enfants.
Eh ben, c'est sûr. Les enfants de 2 ans, 3 ans, c'est sûr. Moi, je ne peux pas quand même mettre ma fille ici avec des rats et tout. Hein. C'est mieux de laisser ma fille à la maison, tranquille.
Du coup, pas d'autre choix que de fermer les 9 classes toute la semaine pour permettre aux professionnels d'éradiquer le problème.
Alors, la dératisation vient de commencer. Comment ça se passe exactement ?
Eh bien, après une inspection minutieuse des lieux qui a confirmé la présence des rats, la société Prohygiène Solutions est entrée en action pour traiter les extérieurs, les accès des rongeurs et bien sûr l'intérieur de l'établissement. Thomas Polo, le responsable.
On est sur une école, donc on doit être vigilant sur les produits qu'on utilise. Donc on va éviter de trop charger le site en matière toxique et en utilisant des méthodes alternatives telles que la capture. On va procéder également au rebouchage des terriers en extérieur et conjointement, on va travailler sur l'hermiticité des bâtiments pour vraiment essayer de venir réduire le risque d'intrusion des rongeurs dans l'établissement scolaire. Ça peut passer par les vitres sanitaires, ça peut passer par le doublage au niveau des murs extérieurs, ça peut passer également par une porte qui n'est pas fermée. Il y a différentes sources qui peuvent aujourd'hui permettre à un rongeur de pénétrer un bâtiment.
La mairie de Vaux-en-Velin a débloqué 9000 euros pour l'opération qui va durer toute la semaine et même au-delà, puisqu'un suivi sera effectué pendant un mois et demi pour vérifier qu'il n'y a plus aucun rat dans l'établissement.
Frédéric Perruche pour RTL, à Vaux-en-Velin évidemment.
Qui voudra encore être maire ou élu local ces prochaines années, tant c'est difficile. Nous allons en parler dans quelques instants avec des maires qui sont de plus en plus ciblés par des incivilités. A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Plus d'un maire sur 3 dit avoir déjà été victime de menaces, d'injures ou encore d'insultes. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter selon une étude du Cevipof à l'occasion du Congrès des maires de France. Un congrès qui se déroule en ce moment même à Paris. Et notre invité est malheureusement bien placé pour en parler. Jérémy Bréau, maire de Bron, a été placé sous protection policière début mars après avoir subi insultes, justement, menaces physiques et jets de projectiles. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
J'imagine que cette augmentation, ces chiffres ne vous surprennent pas ?
Non, malheureusement non. Effectivement, on voit une recrudescence des attaques, des insultes, des agressions envers les maires. Mais c'est aussi, je pense qu'on va y revenir, mais c'est aussi toute la société. C'est envers les pompiers, les forces de l'ordre, les enseignants. On vit une période qui n'est pas simple pour tout le monde.
Il est clair en tout cas que la société a changé, que le rapport à l'autorité, le rapport à l'éducation a changé et que vous êtes un jeune maire, hein, vous avez une quarantaine d'années, vous êtes maire républicain, vous êtes né dans une France qui a peu de rapport avec la France des années 60-70 où la police, les pompiers et l'autorité étaient respectés.
C'est exactement ça. Moi, j'ai 41 ans. Je suis effectivement maire depuis 2 ans. Alors, j'ai été sous protection. En fait, c'était l'an dernier pendant 6 mois. suite à une agression. Là, j'ai une autre affaire en cours, malheureusement, où le procureur a attaqué a assigné en correctionnel un habitant de Bron et qui m'a placé, moi, sous le statut de victime pour harcèlement. C'était un individu qui me harcelait, notamment sur les réseaux sociaux et puis également aussi par mail, qui m'a attendu deux fois en bas de la mairie et qui fréquentait les mêmes lieux que moi alors qu'il ne les fréquentait pas auparavant. Si vous voulez, moi je commence à avoir un petit peu d'expérience, j'ai la peau dure, mais c'est plus compliqué, on va dire, pour la famille qui vous entoure.
Est-ce que cela veut dire que ça modifie votre quotidien? Vous faites attention à des choses dont vous ne vous souciez pas avant?
Oui, tout à fait. Par exemple, bon, malheureusement, je ne suis pas le seul à qui ça arrive, et notamment en région lyonnaise. Je pense notamment au maire de Rieux-la-Pape, au maire de Grigny. On a tous suivi une formation il y a à peu près un an avec le RAID. Alors, en une journée, vous n'avez pas
si
le temps d'assimiler beaucoup.
Si on en est là, effectivement,
beaucoup
à faire suivre des formations avec le RAID des maires de certaines villes, et effectivement, vous pouvez nous inquiéter.
Oui, alors, en une journée, vous n'avez pas le temps de tout assimiler, bien évidemment, mais on a reçu les premiers gestes, effectivement, concrètement, quand je suis sur un marché ou quand je suis sur le terrain, je visualise plus qu'avant, je fais nettement plus attention qu'avant. Dans mon positionnement, il y a eu du changement, donc c'est quelque chose auquel je ne pensais pas au début de mandat, mais qui maintenant fait partie du quotidien.
Bon, la question que je posais tout à l'heure, est-ce que des maires, ça peut remettre en cause leur engagement? Est-ce que vous dites déjà, le prochain coup, j'y vais pas, parce que votre femme, peut-être, vos enfants, peut-être, votre famille, peut-être, n'a pas envie de vivre ça?
Alors, me concernant, non, parce que je crois dans ce que je fais et que c'est pas à moi de me coucher face à une minorité d'individus qui, comme vous l'avez dit, ne respectent pas l'autorité. En revanche, je conçois que, notamment peut-être pour les maires de petites villes qui sont peut-être moins entourés que nous, maires de villes de certaines tailles, je comprends qu'ils puissent avoir l'idée. J'avais signé une tribune il y a à peu près un an de cela avec le maire de Rieux-la-Pape et le maire de Valence qui justement encourageait les élus à porter plainte et notamment pour demander aussi le changement de statut d'élu. Parce que le problème, c'est qu'il y a trop d'élus qui soit par peur, soit par peur des représailles, mais aussi par peur que leur image soit écornée, qui n'osaient pas déposer plainte. Et dans cette tribune, on incitait vraiment les maires, les élus, quels qu'ils soient, à déposer plainte, justement pour que ce phénomène soit vraiment pris en compte.
Bon courage à vous, monsieur Bréau. Bon courage à vous. Vous êtes le maire de Bron, qui est célèbre, évidemment, la ville de Bron.
Avec Karim
Benzema.
C'est
la ville de Karim Benzema, qui est venu l'autre jour inaugurer la fresque.
La fresque.
Ça a été assez discret, d'ailleurs, l'inauguration. Je ne sais pas si vous étiez présent à côté de lui.
Si, on y était. On est aussi la ville de Caroline Garcia, qui vient de rapporter gagner le Masters de tennis.
Vous rendez compte?
Et on vient de gagner un gros tournoi de pétanque aussi à Palavas-les-Flots.
Ah bah ça nous parle davantage, si j'ose dire, voilà. Parce qu'on peut jouer à la pétanque alors que jouer au tennis comme Caroline Garcia ou comme au foot comme
c'est
Benzema. Bon, ce soir il sera pas sur le terrain, donc vous êtes la ville de Bron sera un petit peu triste. Autrement, ça aurait été la fête.
Oui, mais on effacera pas la fresque pour autant et on suivra notre équipe.
Et on espérera, bien évidemment, et on l'écoutera sur RTL à partir de 20h. Jérémy Bréau, maire de Bron, maire des Républicains. Je ne vous demande pas votre choix pour Retailleau, Pradier ou Ciotti, bien évidemment.
On parlait foot, Pascal. Sachez que l'Arabie Saoudite est en train de battre l'Argentine 2-1.
Ça, c'est pas possible.
Un mondial plein de surprises, on vous dit.
Ah non, mais ça, c'est un événement considérable. Vous êtes sûr?
Ah bah écoutez, j'espère qu'on ne me donne pas de fausses informations.
Alors ça va plus du tout. Si l'Arabie Saoudite bat l'Argentine, c'est qu'il se passe quelque chose dans le football. Il est 12h20, on revient dans une seconde. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, bien sûr, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Mes parents, ils avaient de grands espoirs pour moi. Ils m'avaient inscrit en allemand première langue. J'ai fait 8 ans d'allemand. Et comme tous les mecs ont fait 8 ans d'allemand, je parle pas allemand. Mais en même temps, c'est dur pour un gamin d'apprendre l'allemand, vous êtes pas d'accord? L'allemand, ça fait pas rêver, quoi.
Max Boublil parle pour beaucoup d'entre nous dans ce sketch. De moins en moins d'enseignants d'allemand en France, mais aussi de moins en moins d'élèves qui choisissent cette matière. Plus de 610 000 en 1994 et aujourd'hui, ils ne sont plus que 150 000. C'est très peu pour en parler. Nous sommes avec Thérèse Claire. Bonjour madame.
Bonjour.
La présidente de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. Alors, comment expliquer que l'allemand soit devenu une matière mal aimée ?
Alors, l'extrait que vous venez de passer montre clairement que l'allemand a un déficit d'image. Vous serez d'accord avec moi, qui est très injuste, à mon sens. Parce que, évidemment, c'est un humoriste, mais si vous me donnez des témoignages négatifs, moi j'ai aussi, nous disposons aussi de nombreux témoignages positifs et d'expériences positives, tant lors de l'apprentissage que lors des séjours qui sont possibles en Allemagne grâce à l'apprentissage de l'allemand.
Alors pourquoi de moins en moins d'élèves choisissent la langue si c'est si formidable ?
Alors là, l'allemand est extrêmement fragilisé, effectivement, actuellement.
Mais pour une raison simple, Madame Claire, pardonnez-moi de le dire comme ça, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça sert en Allemagne.
Très provocateur.
Non mais ça sert en Allemagne, point. C'est-à-dire que moi, ça fait 40 ans que je travaille dans la vie professionnelle, tout le monde parle anglais. J'ai jamais parlé allemand. J'ai fait 8 ans d'allemand, je m'en suis jamais servi. Donc l'utilité de l'allemand, il est en Allemagne. Alors après, on peut aimer la culture allemande, on peut aimer apprendre aussi pour le cerveau, ça peut développer, pourquoi pas, d'autres connexions, très bien. Mais d'un point de vue purement utilitaire, j'ai envie de dire, ça ne sert plus à rien.
Je m'inscris complètement en faux. L'allemand est la deuxième langue demandée sur le marché de l'emploi après l'anglais. Après l'anglais, bien évidemment. Mais bien avant l'espagnol, bien avant toutes les autres langues.
Mais vous parlez allemand en Allemagne.
En Autriche.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez espagnol au-delà de l'Espagne, vous parlez anglais partout dans le monde. C'est ça que je veux dire avec provocation.
Oui,
vous
sûr,
avez raison et je vous demande de me pardonner de cette provocation.
J'entends bien que.
Entschuldigung. Wenn ich ein kleines Kind lerne ich Deutsch. Aber vergiss alles. J'ai tout.
Alors moi je peux vous réciter du Heine, vous savez pourquoi j'ai envie de le faire, parce que je parlais de cet a priori par rapport à l'allemand, et donc j'ai récité à un élève ich weiß nicht, was alles bedeutet, das ist so traurig,
et son regard c'est plus doux avec vous
et son regard s'est éclairé, mais et il m'a dit madame c'est beau l'allemand.
Ce qui est vrai.
Voilà. Ouais. Mais donc, moi je veux dire, ça dépend de la façon dont on parle une langue, on peut la crier, l'éructer et toutes les langues deviennent moches, ça c'est clair.
Non mais je vous dis pas que c'est pas beau, je vous dis que ça sert à rien.
Alors, et donc, et là, je m'inscris complètement en faux. Demander aux entreprises et aux entreprises françaises qui travaillent avec l'Allemagne, et regarder les offres d'emploi sur les sites, ça s'appelle plus l'ANPE, mais
les offres d'emploi.
Pôle emploi. Elles sont dépouillées de Pôle emploi, merci. Et elles sont dépouillées du point de vue des langues, hein, parce que ça nous intéresse bien évidemment de savoir quelles sont les langues demandées. Et je répète, l'allemand est la deuxième langue demandée sur le marché de l'emploi en France. Alors demandez aux employeurs, pas à moi, hein, pourquoi ils ont besoin de gens qui parlent allemand dans leur entreprise. C'est leur problème, mais en tout cas, c'est un fait.
Ben merci et pardonnez-moi encore de ces questions qui sont rudes parfois, mais la culture allemande, effectivement, c'est important, elle est primordiale dans les apprentissages. On peut lire Zweig notamment dans le texte et ça sera forcément une récompense pour ceux qui auront appris l'allemand. Il est 12h27, ça va être l'heure de l'info à 12h30 avec la grande édition, non pas de Céline aujourd'hui, mais d'Agnès.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi,
le 12h30,
Pascal Praud et Agnès Bonfillon.
Et donc à 12h30, c'est la grande édition de la mi-journée avec vous Agnès.
Trois soignants et l'hôpital de Nancy en tant que personne morale. Depuis ce matin, le tribunal correctionnel tente de comprendre comment un petit garçon de 4 ans est mort d'une surdose médicamenteuse. L'autre grand titre du jour, c'est la mort d'un inspecteur des impôts dans le Pas-de-Calais en plein contrôle fiscal. Le contribuable, un brocanteur, s'est donné la mort. Et puis nous commencerons évidemment ce journal par le jour J pour nos Bleus. Premier match du mondial pour les hommes de Didier Deschamps ce soir, 20h, face à l'Australie. Et justement, nous vous posons la question. Coupe du Monde, la France va-t-elle battre l'Australie? Notre rendez-vous culture LVT Midi à 12h50, programme chargé. Vous saurez qui sont les finalistes du prix de l'album RTL de l'année. Et nous fêterons les 40 ans d'un album mythique, que dis-je légendaire, Thriller de Michael Jackson.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. RTL. Coupe du Monde 2022.
Ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Les Bleus démarrent leur mondial au Qatar aujourd'hui face à l'Australie.
Match à 20h pour les hommes de Didier Deschamps qui, on le sait, doivent durant cette compétition se passer de valeurs sûres. Benzema, Pogba, Kanté. Comme à chaque Coupe du Monde, les joueurs pourront compter sur les supporters venus spécialement sur place. Quoique cette année, Mourad Djabari, il faut bien chercher avant de trouver les inconditionnels français. Mais vous y êtes parvenu, évidemment, Mourad.
Oui, ils ne sont pas nombreux, tout simplement parce que le voyage, le logement et la vie coûtent cher à Doha pour limiter les coûts. Des supporters français sont arrivés cette nuit, d'autres arrivent dans la journée pour repartir aussitôt le lendemain en France. Comme Benoît, pas franchement serein avant ce match face à l'Australie.
Même l'absence de Benzema, je pense, peut être compensée par Giroud, par Dembélé qui va jouer devant. Mais le problème, c'est le milieu parce que bon, il y a quand même les deux titulaires de la Coupe du Monde 2018 qui sont absents. On ne va pas être non plus acculés sur nos buts, donc la défense, ça devrait aller.
Mais les Bleus ont toujours eu du mal face aux Soqueros. Cette équipe rugueuse, physique, et puis l'équipe de France est diminuée avec cette cascade de blessés. Un ballon d'or reparti à la maison et pourtant, Cyril est confiant.
Ça va laisser place aux nouveaux, au contraire. Ils ont tout à prouver et ça peut être une sorte de surprise un peu. Je pense que ça va être comme tout le temps avec l'équipe de France. Ça va être dur, un piège et on va s'en sortir en fait.
On l'espère grâce à un but du Phénix, l'infatigable buteur de 36 ans Olivier Giroud, ou un éclair de génie de Kylian Mbappé, fraîchement débarqué dans la moiteur du Qatar. Laurent est sûr de vivre un bon moment ce soir.
Moi je suis assez optimiste de nature, donc je m'attends à une large victoire, honnêtement. Peu importe les blessés, je pense que la liste elle est suffisamment large et étoffée pour nous assurer une bonne victoire. Moi je vois bien un petit 2-0, 2-0 sans forcer, voilà.
2-0, on signe tout de suite dès demain. Tous les supporters présents et arrivés à Doha se sont donné rendez-vous devant le stade très tôt ce soir pour mettre enfin un peu d'ambiance avant ce premier match des Bleus.
Et Mourad Djabari, petit vénard que vous êtes, vous serez sur la pelouse au bord du terrain ce soir pour France-Australie. Soirée spéciale, je vous le rappelle, sur RTL. Soirée qui débutera dès 19h avec On refait la Coupe du Monde, la soirée foot autour de Julien Courbet. Et puis dès 20h, le match commenté en intégralité par nos envoyés spéciaux Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot. Sachez qu'actuellement, l'Argentine de Messi est malmenée par l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. 2-1, voilà le score pour l'instant. À suivre à 14h, Danemark-Tunisie et à 17h, Mexique-Pologne.
RTL Midi.
Comment un contrôle fiscal peut-il aboutir à un tel drame? Hier, un agent a été tué et sa collègue ligotée par un contribuable.
Oui, par un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Les faits se sont déroulés à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais, un village qui dépend du centre des impôts d'Arras. Et c'est là que se trouve en ce moment même Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, Franck Hanson.
Oui, le ministre Gabriel Attal qui est arrivé il y a une petite demi-heure maintenant ici à Arras, dans ce centre des impôts, pour discuter avec les collègues du chef de brigade tué hier soir dans ce village du Pas-de-Calais. Après ce drame, le centre des finances publiques d'Arras n'a d'ailleurs pas ouvert ce matin. 150 à 200 agents qui travaillent ici en temps normal, tous sous le choc. Hier soir d'ailleurs, pendant de longues minutes, ils se sont interrogés pour savoir qui était la victime de ce brocanteur qui apparemment avait déjà subi un premier contrôle fiscal dans le passé. Tout le monde est effondré, sous le choc vraiment, confié d'ailleurs l'un des agents délégués CGT dans cette équipe ici. Les agents ne comprennent pas ce qui a pu déraper, même si ces fonctionnaires sont souvent l'objet d'injures ou d'agressions verbales. Ce drame suscite véritablement un véritable traumatisme. L'inspectrice mobilisée hier soir dans ce village pour ce contrôle fiscal, donc il y a des qui a véritablement dérapé et resté d'ailleurs pendant de longues minutes, pendant de longues heures même, séquestré et a sûrement assisté en direct à la mort de son collègue. Un comité central d'hygiène et de sécurité, un CHSCT extraordinaire, doit d'ailleurs se dérouler ici, dans ce centre des impôts du Pas-de-Calais, toujours en deuil.
Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord. Merci Franck.
Depuis ce matin, trois soignants et l'hôpital de Nancy sont poursuivis devant le tribunal correctionnel après la mort d'un petit garçon.
Il s'appelait Timéo, il avait 4 ans. Lorsqu'en 2015, ses parents l'emmènent pour de la fièvre, ils ne se doutent pas un seul instant que leur fils va succomber à un arrêt cardiaque après avoir reçu une surdose d'anti-inflammatoire, Samuel Goldschmidt.
Oui, Timéo a de nombreux signes de maladie qui vont au-delà de la chute de moto avec son papa qui l'a amené aux urgences. Après de nombreux examens, il est décidé de lui prescrire de la colchicine, un anti-inflammatoire très particulier. La dose maximale pour un enfant de 4 ans, c'est 0,5 mg par jour. Il a reçu 8 mg du médicament à la suite d'une erreur d'interprétation du dosage. On a calculé 0,5 mg par kilo. Timéo fait 16 kilos. Il ne survivra pas à cette dose gigantesque. Qui a prescrit ce médicament? Et surtout sa dose, c'est tout le nœud de l'audience. La décision de donner ce traitement a été prise lors d'une réunion à plusieurs médecins et assistants de service. Mais après cela, chacun a tendance à se renvoyer la balle. Il est apparu très vite lors des récits ce matin que la décision a été prise sur fond de désorganisation du service pour manque de personnel. Un acteur du dossier nous indiquait que dans ces services, visiblement, il n'y avait pas de maître à bord.
Samuel Goldschmidt en direct du tribunal correctionnel de Nancy.
Il est l'un des trois candidats en lice et même favori pour la présidence des Républicains dans une quinzaine de jours, et pourtant c'est pour tout autre chose que le nom d'Éric Ciotti est dans l'actualité aujourd'hui, et disons-le, ça rappelle ce qui s'était passé avec Monsieur Fillon, François Fillon.
Le parquet national financier veut en avoir le cœur net. Plusieurs articles sont parus dans la presse dernièrement, affirmant que l'ex-épouse du député des Alpes-Maritimes avait cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à Nice, mais aussi au département. Ce sont sur ces faits que la justice va se pencher, Thomas Proutot.
Absolument, enquête ouverte pour détournement de fonds publics et abus de confiance après les révélations du Canard enchaîné. Avec une question centrale, Caroline Magne, l'ex-épouse d'Éric Ciotti, pouvait-elle être à la fois assistante parlementaire de son mari, chef de cabinet du maire de Nice, Christian Estrosi, et travailler pour la communauté urbaine de la même ville? Le tout pour un revenu cumulé en 2009 de 94 500 euros, selon les calculs de Libération. Éric Ciotti a répliqué dès la semaine dernière en se disant bassement attaqué. Le député a surtout brandi ce chiffre assez étonnant. Son ex-épouse travaillait pour lui 5h25 par semaine précisément. Un timing qui permet en fait de respecter le plafond légal des 44 heures hebdomadaires cumulées. Alors comme pour les époux Fillon en 2017, en effet, la justice va vérifier la réalité du travail de l'ex-madame Ciotti. Agenda, mail, photos publiques, tout devrait être passé au tamis. La période concernée est 2007-2016, avec différentes combinaisons d'emplois, mais toujours un salaire de l'Assemblée nationale. Éric Ciotti lui-même est dans le viseur comme auteur principal, le cas échéant du détournement de fonds publics, puisque c'est lui qui salariait en partie Caroline Magne.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Tout à fait autre chose. Interdiction pour Jean-Luc Lahaye de remonter sur scène. La justice a tranché.
Son contrôle judiciaire l'empêche purement et simplement d'exercer son métier, Anne Lehnaf.
Oui, la chambre d'instruction de la cour d'appel a confirmé ce matin le durcissement de son contrôle judiciaire qui avait été décidé début octobre. Il n'a pas le droit, jusqu'à nouvel ordre, de se produire sur scène. Jean-Luc Lahaye est mis en examen depuis un an maintenant pour viol et agression sexuelle à l'encontre de jeunes femmes, mineures à l'époque. Les faits remontent à 2013 et l'une des deux plaignantes a expliqué que ces agressions qu'elle a subies se sont notamment passées dans les loges, dans les coulisses des concerts de la star qu'elle adulait, d'où cette décision de la justice. Jean-Luc Lahaye, lui, nie les faits et assure qu'il s'agissait de relations consenties.
Anne Le Hénaff, merci pour ces précisions.
L'Iran, contrairement à ses engagements, commence à produire de l'uranium enrichi à 60%.
Cela a de quoi interpeller la communauté internationale, Julien Fautra, puisque très clairement, Téhéran se rapproche des 90% nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire.
Oui, 90%, c'est le seuil technique pour des besoins militaires. L'Iran met donc sa menace à exécution de l'uranium hautement enrichi dans une usine à Fodo, à 180 km de Téhéran. C'est une usine souterraine et désormais suffisamment moderne pour parvenir à ce seuil. 60% annoncé ce matin, qui dépasse donc largement celui de 3,67% fixé par un accord de 2015 entre Téhéran et les Occidentaux pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. 60%, 10%, qui dépasse également largement le niveau 20% environ nécessaire pour les réacteurs civils. C'est donc un signal de défi, me confie un expert à l'adresse des Occidentaux, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Allemagne, qui veulent empêcher l'Iran de devenir une puissance dotée de l'arme nucléaire. L'Iran leur répond aujourd'hui: vous n'êtes pas en mesure de m'empêcher de franchir cette étape, ni les suivantes.
Julien Fautra du service étranger de RTL. En Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme hier sur l'île de Java. Les derniers chiffres font état de 252 morts et plusieurs centaines de blessés. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche. C'est toujours pareil, vous n'avez pas de bonnes nouvelles.
Bah non. Voilà. C'est un temps automnal en même temps, Agnès. On a des nuages, on a du vent, on a des averses. Alors des averses.
C'est des bonnes nouvelles d'ailleurs, la pluie.
Mais oui, on en a besoin de toute façon, parce qu'on n'en a pas eu assez ces derniers
temps. Vous
voyez
ce que je voulais dire.
Et j'ai bien compris, ne vous inquiétez pas. Donc un temps de saison, tout va bien. On a des averses plus marquées cet après-midi sur le sud-ouest, entre la Normandie et les Hauts-de-France également. Elles sont plus éparses sur le nord-est. Mais il y a des régions qui sont à l'écart des averses, comme par exemple entre la Bretagne dans l'après-midi. Il y a encore quelques gouttes là, mais cet après-midi, entre la Bretagne et Pays de la Loire, le centre, le sud de l'île de France, on devrait être au sec, avec un ciel variable. Et près de la Méditerranée, c'est un temps sec et du soleil, mais avec du vent qui souffle bien encore en Corse, puisque la Corse du Sud est en vigilance orange, vent et pluie, inondation. On peut avoir des rafales jusqu'à 130 km/h, des rafales de vent également qui faiblissent par rapport à ce matin, mais qui sont encore bien présentes sur la Manche et la côte atlantique. Et puis on a de la neige en montagne un peu partout, sur tous les massifs. Tout ça sous des températures de saison, de 7 à Langres jusqu'à 18 à Nice, c'est encore chaud. 15 à Perpignan, 12 au Havre et à Bordeaux, 11 à Paris et Lyon et 10 à Lille.
Merci beaucoup Peggy.
On va parler football dans une seconde. Je crois que Nicolas Jargerot est déjà en ligne, en direct du Qatar. L'information pour le moment, si elle est confirmée... c'est que l'Argentine est menée. C'est-à-dire que si la victoire de l'Arabie Saoudite se confirme plus exactement, je ne sais pas. Il y a toujours 2-1, il reste 10 minutes. Ouais. 10 minutes et l'Argentine est menée 2-1.
Ça vous perturbe. Hein.
Bah, ça perturbe également Nicolas Jargerot, j'imagine. Il est dans sa chambre du côté du Qatar. Il est où Nicolas, il m'entend?
Je suis là, Pascal, Agnès, effectivement.
Et vous regardez le match, j'imagine, en ce moment.
D'un coin, on voit pas tous les matchs, hein, vous savez, parce que déjà tous les matchs ne sont pas diffusés ici dans notre hôtel, mais en tout cas, on essaye de trouver des moyens de pouvoir visionner cela de temps en temps.
Bon, on parle évidemment de l'équipe de France dans une seconde, à tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL Midi jusqu'à 13h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi. RTL, Coupe du Monde 2022.
Le mondial débute dans quelques heures pour l'équipe de France. Ce sera face à l'Australie à 20h. Après le forfait de Karim Benzema, les hommes de Didier Deschamps démarrent la compétition avec quelques incertitudes, mais le rêve de conserver le titre, hein, et pourquoi pas une troisième étoile, on peut l'espérer. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas Jargerot au Qatar. Donc, on vous a entendu il y a quelques secondes. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
On peut raisonnablement se montrer optimiste, on peut y croire, Nicolas.
Alors sur l'issue finale, ça, il y a encore beaucoup de parcours à faire. Simplement, en tout cas sur ce premier match face à l'Australie, bah oui, aux Lakers quand même, parce que au vu des effectifs, la différence est très nette. Hein. Vous avez une ossature côté français de joueurs qui ont déjà été champions du monde. Ils sont 9 dans ce groupe, 7 devraient être titulaires ce soir et devraient débuter. Puis en face, vous avez une sélection en partie en reconstruction, dont la moitié de l'effectif évolue en deuxième division de championnat allemand, anglais ou japonais. Qui est 38e au classement FIFA. Donc oui, sur le papier, il y a quand même une différence très nette entre ces deux sélections. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'Australie fait partie un peu de ces formations qui évidemment espèrent avoir une qualification, mais qui savent aussi que très souvent, quand elles viennent à la Coupe du Monde, bien elles font que trois matchs, ces trois matchs de la phase de groupe, et donc ça donne des matchs qui sont très très serrés, très très âpres, comme on a eu il y a en 2018. Et puis il suffit de voir le score actuellement entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine, où les Saoudiens mènent maintenant à un peu plus de 5 minutes de la fin 2-1. C'est évidemment le scénario à éviter pour l'équipe de France, mais les Bleus, nous, ne sont pas à l'abri non plus d'être menés dans ce genre de match.
Nicolas, depuis 1978 que je suis l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est la première fois que je ne sais pas quoi penser. Je pars vraiment dans l'inconnu. Je ne sais pas ce que je vais voir ce soir. Et j'ai l'impression que beaucoup d'observateurs, finalement, pour plein de raisons qu'on connaît, sont dans cette situation. On va quand même attendre, on va voir. Est-ce que vous avez plus de certitude ?
Non. Bah, je partage totalement votre avis, votre opinion. D'abord parce qu'on n'arrête pas de le répéter depuis maintenant une semaine, mais avec les différents forfaits et de joueurs majeurs, ça ébranle forcément un groupe. Et puis ensuite, il y a dans cette équipe de France, à des postes clés, notamment au milieu de terrain et puis en défense, des joueurs qui sont inexpérimentés. Et ça, on ne sait pas aujourd'hui. Il y a un point d'interrogation sur comment, dans les dernières heures, là, est-ce qu'ils ne vont pas être rattrapés par la pression. C'est Rabiot, c'est Tchouaméni.
Ils ne le sont plus aujourd'hui. La pression, c'est un truc des années 70-80, mais j'ai l'impression que ces jeunes-là, même la jeunesse qui était dans le temps un handicap, aujourd'hui, ils entrent directement dans la compétition et dans l'équipe de France.
Mais c'est ce qu'on disait aussi il y a 4 ans et de façon un peu mystérieuse, Dembélé n'était pas là, Tolisso n'était pas là, alors que jamais ça n'aurait dû se produire, et ils ont été rattrapés par ça, notamment il y a 4 ans face à l'Australie, alors que on répétait la même chose en 2018. Il y avait une différence face à l'Australie, une différence de niveau, et que jamais l'équipe de France n'aurait dû être bousculée comme elle l'a été il y a 4 ans. Donc
Nicolas, il y a quand même
c'est quelque chose qui n'est pas totalement impossible.
Nicolas, deux petits mots. Il y a une attaque que la planète foot nous envie, on va le dire, on va partir optimiste.
Oui, c'est sûr, c'est évident. Quand vous avez Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Coman par exemple, et notamment un Kylian Mbappé qui veut casser la baraque, c'est certain, et qui va encore un peu plus écrire collectivement, individuellement l'histoire. Vous avez offensivement évidemment de la matière pour briller dans cette compétition.
Et puis ce pourrait être la première surprise, mais ça va bien au-delà. Si l'Arabie Saoudite bat l'Argentine, c'est une des plus grandes surprises dans l'histoire de la Coupe du Monde, disons-le, hein, même si ce n'est qu'un premier match. Merci Nicolas, on vous écoute ce soir à 20h, bien évidemment. Merci. Salut Nicolas. Philippe Sansfourche et toute la troupe d'RTL. Dans une seconde, Anthony Martin pour parler de Thriller. C'était il y a 40 ans. Billie Jean. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, programme chargé avant de parler d'un album légendaire, et ce sera avec Steven Bellery. La finale du prix de l'album RTL, c'est maintenant.
Et c'est avec Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour à vous.
Il y a 2 semaines, vous nous présentiez les 12 disques en lice cette année. Et là, donc, on ne va pas parler du dernier carré, puisqu'ils sont 5 finalistes.
Ouais. Exactement, vous avez été plusieurs dizaines de milliers à voter, ça a beaucoup marché. Hein. Et voici les 5 albums qui ont recueilli le plus de clics sur RTL.fr et sur l'appli RTL. On les découvre par ordre chronologique de sortie entre novembre 2021 et octobre 2022, sont en finale. Nolwenn Leroy, La Cavale. Comme si nous deux c'était pour la vie, c'est une formule aussi. Si le président remporte la moitié des voix, c'est Aurel que les autres avec Civilisation. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Juliette Armanet avec Brûler le feu. Benjamin Biolay avec Sinclair. Et Christophe Willem avec Panorama. Voilà donc les 5 albums qui vont désormais être soumis à un jury composé de 50 auditeurs d'RTL. Pour devenir juré, il suffisait de s'inscrire sur notre site au moment du vote pour son album préféré. Ce jury choisira donc l'album RTL de l'année 2022. On dévoilera le disque lauréat le mois prochain. Ce sera le 17e vainqueur de notre prix. Il succédera à l'album Cœur de Clara Luciani qui avait remporté le trophée l'an dernier.
Merci Anthony. On continue en musique avec un album légendaire et mythique.
En régie,
j'ai jamais vu tant de monde dans le studio, et dans le studio tout le monde danse bien évidemment, même ceux qui n'étaient pas nés, c'est le cas de Steven.
Il y a pile 40 ans, en novembre 1982, le monde entier dansait effectivement sur Thriller de Michael Jackson, plus de 100 millions d'exemplaires vendu dans le monde, selon certaines estimations. Ce chef-d'œuvre vient de reparaître dans une édition anniversaire avec 10 bonus et des mots, s'il vous plaît. Un album qui a changé la vie d'un Français, devenu un collaborateur de l'ombre du roi de la pop. C'est incroyable. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Alors ce n'est pas vous le collaborateur de l'ombre, mais vous avez retrouvé ce fan devenu très proche de Michael Jackson.
Oui, il s'appelle Laurent Hopman. Il a aujourd'hui 52 ans. Sa vie a basculé comme ça.
J'ai entendu Beat It à la radio. J'avais 12 ans et j'ai été complètement fou de cette chanson. Et à partir de là, j'ai découvert les vidéoclips. Et évidemment, dans le paysage de l'époque, c'était tellement révolutionnaire, tellement incroyable de voir ce jeune gars qui était beau, qui dansait incroyablement, qui avait des chansons extraordinaires. La planète entière était fan de Michael Jackson pendant cette période. Moi, j'ai continué au-delà, peut-être parce qu'il y avait cette soif d'en avoir plus, de rechercher ce plaisir, le plaisir de ces chansons incroyables, de ces clips fantastiques. C'est comme ça qu'on devient petit à petit fan. C'était sans doute cette envie de partager avec d'autres cette passion, et donc de créer d'abord un fan club, et par la suite un magazine vendu chez les marchands de journaux et consacré exclusivement à Michael Jackson.
Magazine baptisé Black and White est lancé en 1992. 33 numéros seront publiés jusqu'en 2001. Le sérieux du trimestriel séduit souvent plus de 30 000 acheteurs et jusqu'au principal intéressé, Laurent Hopman.
Un jour, parce qu'on avait déjà sorti 5-6 numéros, on se dit on va quand même essayer de lui envoyer. Donc on l'a envoyé aux avocats qui l'ont transmis ensuite à Jackson. Et là, un jour, on a reçu un fax et qui nous disait que Michael avait vu le magazine, qu'il trouvait ça génial, qu'il voulait nous rencontrer. On est tombé à la renverse. C'était inimaginable. À un endroit assez improbable. Sa tournée Dangerous passait par l'Europe via les îles Canaries et donc on s'est retrouvé aux îles Canaries pour rencontrer Michael Jackson. De le voir en vrai, c'était passer de l'autre côté du miroir, c'était absolument incroyable. On était en fait bouche bée quand on s'est retrouvé face à lui. C'était assez saisissant. Mais c'est vrai qu'il avait un charisme tel, son regard, l'entendre parler, la poignée de main, sentir sa main, de voir toutes ces choses-là, c'est là qu'on réalise. Il avait une dimension irréelle à cause de ses transformations au visage notamment, mais toute cette aura, oui, il y avait un contraste assez saisissant entre la personne qui allait bondir sur scène quelques minutes plus tard. Et puis ce gars très timide, très gentil, très réservé, qui parlait avec une petite voix et qui était très humble. C'est assez surprenant.
On est en novembre 82 et tous les ados que nous étions écoutaient ça. Et à partir de ce moment-là, bien, l'équipe du magazine va collaborer régulièrement avec Michael Jackson, Steven.
Oui, Michael leur ouvre ses archives, notamment photos, pour nourrir leur page glacée. Et la confiance s'installe petit à petit.
Ce qu'il aimait beaucoup, c'était le fait qu'on soit des fans et qu'on défende toujours son héritage artistique et qu'on respecte son image. Et donc, rapidement, on a travaillé de concert avec Sony, puis une filiale de Sony qui s'occupait du merchandising, pour en fait valider ou aider tous les gens qui achetaient sa licence à faire des produits conformes. Donc, des t-shirts, calendriers, des figurines, des choses comme ça, ça passait par nous et la validation était express. Alors que normalement, c'était un processus très long parce qu'il fallait repasser par les États-Unis, etc. On a fait des pochettes de disques pour lui, certains de ses singles, coffrets aussi collector pour le film Ghost, plein de choses comme ça qui ont émaillé notre parcours.
Vous savez combien de fois vous l'avez rencontré ? Vous avez compté ou ça reste
vague ? J'ai jamais vraiment compté, mais vingtaine ou une trentaine de fois, je sais plus.
Qu'on retrouve évidemment dans cet album Thriller. Alors, il y a évidemment des bonus, des démos, il y a plein de nouvelles choses dans cette édition anniversaire. J'ai donc demandé à ce grand fan, qui est Laurent Hopman, ce qu'il en pensait de cette réédition.
Got the Hots, qui est une chanson écrite par Rod Temperton, donc l'un des artisans de Thriller. Ça, c'est une chanson qui est aboutie, qui a été produite par Quincy Jones, qui était déjà sortie, donc pour le grand public qui ne l'aurait pas déjà entendu, ça c'est à écouter. Après, c'est moins intéressant. Il faut être un peu un passionné et avoir envie d'écouter le processus créatif, d'écouter des démos qui sont vraiment dans leur jus, très brutes. Frissons très mesurés parce qu'on est un peu déçus parce que la succession de Jackson propose. Il n'aurait rien aimé voir sur ce disque. Il n'aurait jamais laissé des chansons qui n'ont rien à voir avec la période, il n'aurait pas laissé des chansons si mal mixées dans une version très très brute. Il n'aimait pas le fait de montrer des travaux pas finis.
Voilà une démo inédite, Got the Hots, à découvrir donc dans Thriller, l'édition anniversaire qui vient tout juste de paraître.
Merci Steven, il est 13h.
RTL Midi.